simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Rigors. Chaque semaine, c'est l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Rigors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Notre émission de ce soir sera consacrée à ce qui se passe en Turquie, Turquie et en Syrie. Et avant, on va évidemment parler de l'histoire depuis 2011, du pourquoi on en arrive là aujourd'hui. On reçoit dans notre émission, eh bien, Ferhat, le représentant de la communauté kurde rémoise, et puis aussi Enver.
Bonsoir.
Qui pourra, lui, parler par contre en kurde et sera traduit par Ferhat. Alors, je crois que le point de départ de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même 2011, avec effectivement le printemps arabe.
Oui, bonsoir à tous. Oui, en effet, 2011, début du printemps dit arabe, avec des manifestations pour la première fois kurdes dans la région de Kamishlo, à Mudeyarhisseke. Où les Kurdes revendiquaient plus de droits et plus de liberté. Pour revenir un peu en arrière, comme vous savez, en 62, le gouvernement syrien avait déchu de la nationalité syrienne 300 000 Kurdes à l'époque qui vivaient avec des libertés et des droits moindres.
Moindres.
Oui, voilà, exactement. Et petit à petit, justement, il y a eu cette insurrection, ce soulèvement populaire qui a mené ensuite à un soulèvement plus généralisé en Syrie, qui a amené justement ce qu'on appelait ce printemps arabe en Syrie.
Oui, voilà. Et d'ailleurs, faut dire les conséquences que ça a eu au niveau de vous en Kurde, en Syrie, puisque l'administration syrienne officielle a été obligée de partir.
Exactement. Quand le mouvement s'est propagé en Syrie, de grosses manifestations ont lieu du côté d'Alep, justement, et le gouvernement syrien a été obligé justement de retirer toutes ses troupes de la zone qu'on appellerait le Rojava ici, pour les rediriger justement vers Alep et laisser les Kurdes tout seuls dans leur territoire.
Alors justement, vous en avez profité pour vous organiser autrement, vous auto-organiser.
Exactement. Alors on en profite avec justement ce soulèvement populaire. Un gros mouvement de contestation, de protestation se met en place en Syrie. Début 2012, se crée ce qu'on appellera par la suite l'armée syrienne libre, dont on connaît les conséquences et les fins au final, mais l'armée syrienne libre qui, en juin 2012, lance un appel aux Kurdes, justement, en les appelant à rallier l'armée syrienne libre. Et là, les Kurdes, sous conseil de leur chef spirituel, Öcalan, qui est emprisonné donc depuis 99 sur l'île prison d'Imrali, sur ses conseils, ne rallient pas l'armée syrienne libre, justement, en étant craintif, justement, sont craintifs en voyant l'armée syrienne libre et en voyant, justement, tout ce qui peut s'y passer à l'intérieur. Et donc, suite à ça, l'armée syrienne libre, elle, se tourne contre, plutôt, le gouvernement, et s'ensuit justement ce qu'on connaît, la guerre civile en Syrie jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne les Kurdes, pour resituer un peu géographiquement, les Kurdes en Syrie sont vraiment à l'extrême ouest, nord-ouest de la Syrie, et au nord, en fait, entre le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre, vraiment, c'est la frontière naturelle entre la Syrie et l'Irak. Et l'Euphrate, qui est plus à l'ouest par rapport au Tigre, justement, cette partie entre l'Euphrate et le Tigre, regroupe les cantons de Kobané et de Djiziré. Et l'extrême ouest, qui est complètement isolé par rapport au reste des cantons, c'est le canton de ce qu'on appellerait Afrin aujourd'hui.
En sachant que le peuple kurde vit à cheval sur quatre pays, c'est bien ça ?
Oui, voilà, historiquement.
C'est un peuple qui est divisé par des frontières qui ont été...
Depuis Lausanne, oui, en effet.
Voilà, qui sont issues du reste de la colonisation occidentale.
Exactement, exactement. Donc depuis Lausanne, les Kurdes, donc premier peuple apatride du monde, répartis majoritairement sur quatre pays parce qu'ils ne sont pas essentiellement là-bas. Donc sur la Turquie, à majorité sur la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Il faut savoir qu'on a une très grosse communauté kurde également en Russie.
En Russie,
oui. Oui, en Russie, en Europe, naturellement, avec l'exode qui a pu être vécu. À Istanbul, qui est malgré tout la première ville kurde du monde, malgré tout. Et donc voilà, mais si vous voulez, géographiquement, oui, à cheval sur quatre pays, suite au traité de Lausanne.
Alors justement, en 2012... Au niveau de la mise en place des structures administratives et politiques, il y a des choses qui se mettent en place, en particulier, je crois, le communalisme.
Communalisme.
Oui, c'est bien ça. Alors, à partir de 2012, le PYD, donc à l'époque, met en place un nouveau système politique, une alternative à la politique actuelle, un système qui apprend des erreurs passées et qui justement est basé sur le communalisme. Qu'est-ce que le communalisme ? Alors si vous voulez, au Rojava, le communalisme est basé sur la pensée d'Abdullah Öcalan. Et son confédéralisme démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique ?
Je voulais juste préciser qu'il y a une inspiration qui est venue de Murray Bookchin aux États-Unis.
Le américain, oui, en effet.
Et donc, il y a eu cette rencontre avec Öcalan de la pensée, quelque part, et une inflexion de ce qui était auparavant peut-être un fonctionnement plus, tu me corrigeras, d'esprit marxiste-léniniste.
Alors, initialement, oui, on était plus basé là-dessus, et la pensée du confédéralisme démocratique, elle est beaucoup plus trotskiste initialement, et bien sûr, elle a évolué avec le temps, voyant que le trotskisme n'était plus suivi à l'époque, et on a fait évoluer justement tout ça pour arriver justement à ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appellerait le communalisme. On serait également plus sur un communalisme dit libertaire. Donc, sur quoi se base ce communalisme au Rojava ? Alors, c'est un système d'assemblée, de la simple assemblée locale, régionale, mais vraiment dans tous les domaines. Les assemblées où on y utilise une démocratie directe. Donc c'est le peuple qui s'autodirige. C'est tout simplement ça. Le peuple s'autodirige à travers ce système politique alternatif. Et bien évidemment, le seul point n'est pas le système politique, parce qu'on a on essaye de remettre la femme à sa place, la place qu'elle mérite, c'est-à-dire l'égale de l'homme. Le Rojava met un quota de minimum 40% d'hommes et de femmes. Voilà, c'est pour essayer de rétablir l'équité. Après, bon, les choses font que parfois il y a moins d'hommes ou moins de femmes, naturellement. Et essentiellement basé sur ensuite l'écologie. Parce que le Rojava vivait essentiellement de l'agriculture. Voilà, on y cultivait beaucoup tout ce qu'on pouvait y cultiver. D'ailleurs, je pense que dans nos manuels d'histoire, on a tous connu ça en étant de croissant fertile, je crois.
Si j'en abuse. Oui, croissant fertile.
Oui, c'est bien ça. Hein.
Croissant fertile, c'est là-bas, effectivement.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand on reprend le croissant fertile, ça y ressemble à s'y méprendre au Kurdistan. Mais bon. pour revenir un peu à ce système communaliste, pardonnez-moi, c'est que aujourd'hui, on reproche aux Kurdes d'être autoritaires dans le Rojava. Or, les Kurdes ne sont pas autoritaires du tout, puisqu'ils régissent le Rojava avec tous les peuples qui y sont présents. Et bien sûr, tous ces peuples-là ont signé la même charte qu'on appellerait contrat social aujourd'hui, à savoir les Kurdes, donc les Arabes, les Assyriens, les Chaldéens, les Araméens, les Turkmènes, les Arméniens, les Tchétchènes. Enfin, ils ont tous signé cette même charte.
Et les Syriaques?
Et les Syriaques, je les ai cités. Je les ai cités. Et voilà, on a reconnu au Rojava trois langues officielles. Le kurde, l'arabe et le syriaque.
Qui sont enseignés, d'ailleurs.
Qui sont enseignés, qui sont enseignés. Chacun a le droit d'étudier sa langue, la langue qu'il souhaite. Chacun a le droit de s'exprimer dans la langue qu'il souhaite. Après, il faut savoir que ces trois langues sont essentiellement parlées dans le canton de Djiziré, donc au nord-est de la Syrie, à vraiment la région frontalière à l'Irak. Ces trois langues sont essentiellement parlées là-bas. Kobané essentiellement kurde, comme Afrin d'ailleurs. Et voilà, si vous pouvez me permettre, je vais vous lire le préambule du contrat social, qui je pense qu'il résume parfaitement la situation du Rojava actuellement. Ce qu'on appelle le contrat social, c'est ce qui pourrait être assimilé aujourd'hui à une constitution d'un état quelconque. Le préambule commence comme ça. Nous, peuple des régions autonomes démocratiques d'Afrin, de Jazira et Kobané, confédération de Kurdes, Arabes, Assyriens, Chaldéens, Araméens, Turkmènes, Arméniens et Tchétchènes, déclarons et établissons librement et solennellement cette charte rédigée conformément au principe de l'autonomie démocratique. Dans l'objectif de la liberté, de la justice, de la dignité et de la démocratie, et dans le respect des principes d'égalité et de développement durable, cette charte proclame un nouveau contrat social basé sur la coexistence et la compréhension mutuelle et pacifique entre toutes les couches de la société. Cette charte protège les droits humains, fondamentaux et les libertés, et réaffirme le droit des peuples à l'autodétermination. Donc on repart vraiment sur cette idée de communalisme où le peuple serait, dans l'autodétermination, à savoir se régirait par lui-même. Par cette charte, nous, peuple des régions autonomes, nous unissons dans l'esprit de réconciliation, de pluralisme et de participation démocratique pour que tous puissent s'exprimer librement dans la vie publique. Par la construction d'une société libre de l'autoritarisme, du militarisme, du centralisme et des interventions des autorités religieuses dans les affaires publiques. La charte reconnaît l'intégrité territoriale de la Syrie. C'est important parce qu'on nous a souvent reproché d'être séparatistes. Or, c'est vraiment pas le cas. On accepte vraiment le territoire syrien. Mais voilà, on prône plus une autodétermination du peuple. L'intégrité territoriale de la Syrie et aspire au maintien de la paix intérieure et internationale. Par l'établissement de cette charte, nous déclarons un système politique et une administration civile fondée sur un contrat social qui réconcilie la riche mosaïque de la Syrie à travers une phase transitoire passant de la dictature, de la guerre civile et de la destruction à une nouvelle société démocratique dans laquelle la vie civique et la justice sociale seront préservées.
D'accord. Maintenant, 2013, il arrive le phénomène de l'EI. C'est-à-dire Daesh,
c'est ça.
Qui va changer la donne sur place, puisque là, il va y avoir effectivement des combats très durs, qui va faire que les Kurdes vont être utilisés par l'Occident très clairement sur le terrain, puisque aussi bien la France que les États-Unis, que tous les autres pays qui sont là-bas, évidemment, ne veulent pas avoir des troupes en guerre, ne veulent pas avoir de morts chez eux, et ils veulent bien sûr lancer des bombes par leurs avions, mais surtout pas faire le travail que va faire les Kurdes et les autres peuples pour justement chasser le I de la Syrie.
Exactement. Alors en 2013, ce qu'on appelle le I, Daesh, État islamique, enfin vous y mettez les lettres que vous voulez. Daesh, si vous voulez, c'est constitué de membres de l'armée syrienne libre. Celle qu'on avait créée tout à l'heure en 2011, enfin au début 2012, pour justement essayer de renverser le pouvoir. L'armée syrienne libre, c'est qui ? C'est une armée donc faite de déserteurs ou de déserteurs de l'armée régulière et des civils qui prennent les armes justement dans le but de renverser Bachar el-Assad. Comment sont-ils armés ? Donc, comme tu le soulignes bien, par l'Occident, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, enfin tout le monde, quoi. C'est une armée qui a presque toutes les technologies mondiales dans le but de renverser Bachar el-Assad. Et forcément, quand on est dans une structure dans une pseudo-armée non structurée, il y a des conflits internes. Et les conflits internes mènent justement à un morcellement. On a eu le I non seulement, mais on a eu le front al-Nosra, on a eu, je sais pas, les soldats d'Irak et du Levant. Enfin, il y a eu plusieurs groupuscules à mouvance islamiste.
Ouais.
Et qui, à la fin, se sont tous regroupés, bien évidemment, sous ce qu'on appelle l'État islamique aujourd'hui. Alors, en 2013, les Kurdes... Tout à l'heure, je parlais de leur non-volonté de s'allier justement à l'armée syrienne libre. Ils étaient justement dans l'attente. Les Kurdes sentaient le vent tourner en Syrie. Les Kurdes ont senti le vent tourner et en ont profité justement pour s'armer. D'une part, s'armer au premier sens du terme, et d'autre part, pour s'armer. Ils sont beaucoup armés de patience et ont attendu, sentant que le vent allait tourner. Et ça n'a pas manqué. 2013, l'État islamique vient comme des barbares, venant justement d'Irak du Nord, a commencé dans la région du Mont Sinjar, avec le génocide des Yazidis. Et encore une fois, donc les milices qui étaient créées, enfin on appelle ça, je ne sais même pas pourquoi les milices, c'est à force d'entendre les milices dans les médias que j'ai dit les milices, mais c'est une véritable armée, on parle de 70 000 hommes aujourd'hui au sein des YPG, qui sont les unités de protection du peuple. Et ces YPG, justement, se sont rendus par la voie de Kamishlo jusqu'au Mont Sinjar, justement, pour essayer de sauver ces Yazidis au Mont Sinjar. Avec l'aide, bien évidemment, des guérilleros du Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui, eux, sont arrivés de la frontière turco-irakienne. Et donc, l'État islamique a continué à avancer, a pris de plus en plus d'ampleur. S'est déplacé vers l'ouest en entrant en Syrie et jusqu'à justement arriver est entré en Syrie non pas par Kamishlo, enfin par Jizire, mais plus par le sud de la Syrie pour pouvoir remonter ensuite par la suite et est arrivé jusqu'en 2014 je crois avec a encerclé la ville de Kobané et qui a vraiment été là, pour le coup, la médiatisation totale pour les Kurdes.
Ouais. Donc les Kurdes ont chassé, on peut dire, le I, les Daesh.
Ça a été le premier véritable gros revers pour Daesh, ouais. Kobané, ça a été vraiment le premier véritable revers, dans le sens où la Turquie, déjà à l'époque, dans son élan fraternel,
laissez passer les armes pour lui. Exactement. Le dire, je crois.
Hein. Oui, non, mais c'est exactement ça. Laissez pas passer les armes, les livrer directement. Aujourd'hui, à l'époque, Daesh pilonnait la ville de Kobané avec des tanks vêtus d'un drapeau turc. Je veux dire, c'était vraiment, véritablement, les armes turques qui étaient utilisées lors de la tentative de prise de Kobané. Parce que ce qui s'est passé à Kobané, Je pense que c'est l'une des histoires les plus héroïques qui puisse être dans l'histoire moderne aujourd'hui en termes de résistance. On a eu certains témoignages où vraiment Daesh arrivait en tuant, en pillant, vraiment en faisant tout ce qui fait tout ce qui est possible et imaginable. On a des retours qui nous disaient, on voyait les membres de Daesh à 200 mètres, on arrivait à voir la couleur de leurs yeux, tellement, pour vous dire à quel point ils étaient proches l'un de l'autre. Mais malheureusement, à l'époque, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que c'est David contre Goliath, voilà, nous on est avec nos armes légères contre des armes lourdes, des choses comme ça, c'est pas possible de lutter. Il y a eu un très gros soulèvement populaire lors de la bataille de Kobané, que ce soit en Europe ou partout dans le monde.
En Europe, tu veux dire, il y a eu beaucoup de soutiens qui sont venus d'Europe à Kobané même, apporter...
Initialement, si tu veux, ça a débuté par le soulèvement populaire kurde. Et voyant les autorités européennes, voyant ce soulèvement, mais vraiment instantané, ça s'est fait quasiment instantanément. Tout le monde s'est levé d'un coup. Alors forcément, tous les yeux se sont tournés vers Kobané. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors d'un coup, on a eu une médiatisation, une surmédiatisation peut-être, mais à juste titre d'ailleurs. Et qui a fait que Kobané est devenu le symbole de la résistance. Kobané a fait connaître le Rojava au monde entier, aux internationalistes du monde entier. C'est suite à Kobané qu'on a eu des centaines d'internationalistes qui sont allés se battre justement aux côtés de ce qu'on appellerait aujourd'hui les forces démocratiques syriennes. Et Kobané, ça a été un véritable désastre sur le plan humain. C'était un bilan humain très très lourd. Et Kobané était sur le point de tomber entre les mains de l'État islamique. Et peut-être que si les Kurdes avaient eu la possibilité à cette époque de pouvoir battre en retraite, ils l'auraient fait. Sincèrement, je pense que s'ils auraient pu le faire, ils l'auraient fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que derrière eux, c'est la frontière turque. Et les chars étaient déjà positionnés à la frontière vers nous, avec les canons pointés sur Kobané. Il y a eu cette brave guerrière du YPJ, Arin Mirkan, qui s'est jetée au sein de l'État islamique, au sein des hommes de l'État islamique. Elle s'était bien sûr entourée d'explosifs. Elle était mère de trois enfants par la même occasion. Elle combattait au sein des YPJ. Et s'est faite vraiment littéralement exploser juste pour faire reculer. Et c'est à ce moment-là, justement, à l'époque, où l'aviation européenne, qui était d'ailleurs, je pense que c'était la France qui avait commencé les premiers bombardements dans Kobané, a donné un coup de main justement aux Kurdes et repoussé l'État islamique et jusqu'à juin, juillet 2015.
Ouais, c'est ça.
Et en juillet 2015, véritablement, Kobané était sorti. L'État islamique était complètement sorti de Kobané. C'était le premier gros revers pour l'État islamique.
Peut-être faire une pause musicale.
Shalwa shukani. بلهم در مغلاجيان
لكن شريتو لا نحر بلهم در مغلاجيان هات الفارس بانين جن بشي بشي تاقى بشي بشي تاقى
Donc on va continuer donc sur la Syrie avec interview de Ferhat, responsable de la communauté kurde de Reims, et puis aussi Enver qui va nous parler justement d'Afrin. Alors faut dire que ce qui se passait à Kobané, ce qui se passait dans le Rojava, ça faisait peur, c'est moins que l'on puisse dire, aux Turcs, d'autant plus que chez les Turcs, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de Kurdes qui sont organisé, entre autres, surtout dans le PKK. Donc, je crois que il y avait quand même une situation de pré-guerre dans les années 2015 jusqu'en 2018 où la Turquie va s'attaquer à Afrin. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils sont attaqués à Afrin? Beaucoup plus qu'ailleurs, quoi.
Je vais traduire la question. D'accord. Pour Enver qui répondra. Enver, neden Türkiye Afrin'e saldırmış 2018'de.
Ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve başlamadan önce de Fransızca konuşamadığım için de ben bu konuda üzgünüm. En kısa zamanda da bu konuda bir toparlama olacak. Bir dahaki sefere Fransızca konuşacağım.
Il vous salue tous et s'excuse de ne pas pouvoir s'exprimer en français. Mais il vous promet que pour la prochaine émission, il le fera en français.
Şimdi Afrin dediğimizde aslında bütün o barbar dahi saldırılarında savaşı yaşamayan, barışı en çok hani yaşayan illerden bir Kürt illerinden bir tanesiydi Afrin. Öncelikle bu noktada bir stratejik bir öneme sahipti. Barışın, Suriye'deki barışın temel noktası orasıydı. Hani halkların ortak aşama noktasıydı orası.
Afrin c'était un lieu stratégique du Rojava parce qu'Afrin était le seul canton qui n'était pas mêlé à la guerre civile en Syrie depuis le début. C'est la seule ville de Syrie qui n'a connu que la paix.
Onun dışında Afrin'in stratejik bir konumu var Suriye topraklarında ve Rojava bölgesinde. Çünkü bütün kantonlar arasında geçiş noktası arasında. Hem Cizre kantonu hem Kobani kantonu arasında bir geçiş noktasıdır. Ve bu notada da Türkiye'nin hedefi halindedir. Yani bir işgal noktasıdır orası.
Voilà. Le fait qu'Afrine soit totalement isolée du reste, c'est comme je disais tout à l'heure, donc Afrine est vraiment au nord-ouest de la Syrie et totalement isolée du reste du Rojava. Et du fait qu'il soit totalement isolé, c'était une cible facile qui n'avait pas connu la guerre, qui était donc pas forcément préparée à ça. Une cible facile pour la Turquie, l'invasion de la Turquie en début 2018.
Yani kısaca bu soruyu hani bu şekilde ben cevap vereyim ve Afrin deyince hani Türkiye'nin bütün şey kesebilecek noktadadır Afrin aslında. Hani Kürt nüfusu açısından yanılmıyorsam Kamışlı'dan sonra ikinci büyük Kürt nüfusuna sahip olan bir yerdir. Ve bu da onlar için hani bir hedef noktasıdır aslında.
Afrin aussi c'est la deuxième ville la plus peuplée du Rojava pardon en termes de Kurdes. C'est et ce qui faisait une cible potentielle d'autant plus grande pour la Turquie.
D'accord. Donc il y a eu une résistance tout de même à Afrin, oui, pas oui. Tant que vous l'auriez souhaité, je crois. Hein?
Malheureusement non. Pour moi. Je vais imaginer un peu la chose, peut-être caricaturer même, mais tu défends ton fort, t'es à l'intérieur du fort. Je veux dire, t'as beaucoup plus de, tu as beaucoup plus de poids, beaucoup plus de, tu aurais dû avoir un impact beaucoup plus grand que celui qui n'a été. Malheureusement aujourd'hui, enfin malheureusement, on parle de quand même une résistance de 3 mois contre la deuxième armée de l'OTAN.
Ouais.
C'est pas quelque chose d'anodin. Je veux dire, on n'a pas l'État islamique, même aussi armé soit-il. Je veux dire, c'est l'État islamique. Voilà, c'était pas
l'armée turque.
Voilà, c'était pas de grands guerriers, quoi. On va. Mais malgré tout, voilà, 3 mois contre la deuxième armée de l'OTAN, une résistance farouche dans l'unique but de gagner du temps, finalement. Parce que durant ces 3 mois, il y a eu également un soulèvement qui n'était pas aussi grand que celui de Kobané, et je pense que c'est ce qui a joué, c'est ce qui a joué dans le malheur des Kurdes d'Afrin. Alors était-ce un essoufflement du mouvement, je ne sais pas, mais aujourd'hui on en tire les conséquences, et je veux dire aujourd'hui on comprend de nos erreurs pendant 3 mois. Une résistance farouche, on en profite pour essayer d'évacuer le plus de civils possible. On parle de plus de 300 000 civils évacués. Parce qu'il faut savoir que on parlait de plus d'1,5 million de personnes à Afrin.
Afrin.
Ouais. Ouais. Et pas seulement des Kurdes, hein, mais des Arabes qui venaient d'Alep, de Damas ou des choses comme ça, qui fuyaient la guerre, justement, sachant qu'Afrin était une enclave de paix entre guillemets. Et plus de 300 000 civils qui ont fui, errant dans la nature, un peu partout. Et une fois que la majorité des civils étaient partis, pendant ces 3 mois, pendant qu'on évacuait les civils, les YPG donc, ont demandé une restriction, la fermeture de la zone aérienne d'Afrin. Éviter que les avions, justement, ne survolent. Afrin et bombarde Afrin. Ce qui nous a toujours été refusé. Pourquoi? Certainement que certains pays occidentaux avaient de gros enjeux là-bas et que voilà. Et puis après tout, c'est pas quelques centaines de milliers de Kurdes qui allaient changer la donne, peut-être, je ne sais pas. Et on nous a refusé justement cette zone d'exclusion aérienne et les FDS ont dû battre en retraite par dépit, par obligation, au final. Et laisser Afrin aux mains de l'envahisseur.
Ouais. Et alors après, bon, de toute façon, on se doutait que effectivement, c'était la première marche franchie par la Turquie, que ça allait continuer un jour ou l'autre au niveau de Kobané, du Rojava. Et je crois que ce qui a tout déclenché, effectivement, c'est Trump qui a décidé finalement de faire en sorte de lâcher. Et de faire en sorte de donner le feu vert aux Turcs. Non ?
Je ne sais pas si c'est Trump qui a finalement Ouais. Donner le feu vert. Moi, je pense que c'est quelque chose qui était déjà dans les petits papiers de tout le monde, dans le sens où c'est la troisième opération, c'est la troisième invasion de la Turquie en 5 ans en Syrie. Il y a eu les rafales, ils appelaient ça les rafales du désert, je crois. La première, c'était justement, c'est leur incursion à Jarablus, justement qui a vraiment coupé ce Rojava en deux, en isolant complètement Afrin.
Ouais.
Disons que c'était la première étape de leur long processus. La deuxième, c'était justement en 2018 avec l'invasion d'Afrin, pardon. Et voilà, c'est l'invasion d'Afrin, je crois, c'est 700 civils tués à bout portant, femmes, enfants, en moins de quelques jours. C'est voilà, je pense que c'était la deuxième partie, c'était celle-ci, l'invasion d'Afrin. Et la troisième partie, qui était finalement inévitable, Trump ou pas Trump.
Oui, c'était inévitable. Ouais.
Trump ou pas Trump. Moi, je pense pas que Trump ait changé grand chose. Disons peut-être que Trump a accéléré la manœuvre de la Turquie. Oui. Disons voilà, je pense plutôt que c'est ça. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui à l'heure actuelle au Rojava, dans le reste du Rojava. C'est malheureux, mais quand on parle du Rojava, j'ai l'impression d'exclure Afrin, alors que non, Afrin est bien au Rojava. Mais là, pour l'actualité chaude, disons, là, on va isoler Afrin, mais là, ce qui se passe actuellement à Kobané et à Djisiré, c'est inhumain. C'est inhumain. Après, est-ce qu'on peut donner toute la faute à Trump?
D'accord, non, mais je comprends.
J'ai pas la moindre sympathie pour ce personnage, hein, mais je pense pas que, enfin, lui, voilà, c'est de toute façon, il a pas deux déclarations identiques consécutives.
Oui, encore aujourd'hui.
Oui, voilà, mais voilà, n'importe quoi. Il sait même pas de quoi il parle. Mais bon, ça doit être certainement de la faute des Kurdes, hein, qui n'étaient pas en Normandie. C'est ça.
Oui.
mais voilà, aujourd'hui. Moi, je pense que oui, les Américains nous ont trahis, mais je pense aussi que les Français nous ont trahis. Je pense aussi que les Allemands nous ont trahis. Je pense aussi que c'est simple. Je pense que la terre entière nous a trahis aujourd'hui.
Alors justement, tout à l'heure, tu disais à propos de la France. On va revenir un peu au niveau de la France et de Macron.
Oui.
Hein, que Macron vient de déclarer que ça y est, la France va supprimer la livraison d'armes pouvant éventuellement servir. Tu reprendras exactement le terme, pouvant exactement servir dans cette région du monde où il y a la guerre. Et on s'aperçoit qu'il s'est toujours foutu de la gueule du monde.
Bien sûr.
Dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas qu'en Arabie Saoudite, par exemple, au Yémen, etc.
Il a fait exactement la même chose.
Il fait toujours la même chose. De toute façon, le principal, c'est que la France vend des armes. On est devenu le troisième vendeur d'armes du monde. On est redevenu, parce qu'on était quatrième, on est passé à la troisième place. Alors, tu disais tout à l'heure, en aparté, que le fameux Macron avait encore conclu des accords avec la Turquie.
Un contrat de vente.
Un contrat de vente. C'était en...
Le dernier contrat de vente, ouais. Date de février 2018, si je ne m'abuse. De février ou de mars 2018. Et si vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, février ou mars 2018, bah, c'est l'invasion d'Afrin.
L'Afrin, ouais, tout à fait.
Et aujourd'hui, Monsieur Macron, aussi humaniste qu'il prétend être, décide de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute exportation d'armes susceptible d'être utilisée en Syrie. Ça veut dire quoi?
Ouais.
Moi, vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire? Et pardonnez-moi, je vais être grossier. Ça veut dire que, messieurs, dames, vous qui m'écoutez ce soir, la France se fout de votre gueule. Tout simplement. Ouais. La France se paye votre tête. Parce que... on avait arrêté aussi toute exportation d'armes à l'Arabie Saoudite, susceptible d'être utilisée au Yémen.
Au Yémen, oui. Et puis on s'aperçoit qu'après, effectivement, il y a des armes qui tuent là-bas.
Et exactement. Alors, mais vous savez, la Turquie, en achetant nos armes, nous avait promis qu'elle n'utiliserait pas les armes en Syrie. C'est ce qu'on va nous sortir après. Hein. Je vous dis un peu ce qui va se passer dans le futur. Et voilà, moi, ça me fait doucement sourire. Moi, ça me fait doucement sourire l'hypocrisie de la France qui dit qu'on arrête d'exporter des armes, que ceci, que cela. Bon, ok, il y a des actes politiques forts qui montrent vraiment que la France, là, pour le coup, est vraiment embarrassée vis-à-vis de la situation. Mais on arrête d'exporter des armes susceptibles d'être utilisées en Syrie.
Est-ce que tu ne crois pas que c'est
une hypocrisie criminelle, c'est clair, il faut employer les termes
qu'il faut.
Hein. C'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie criminelle.
C'est tout à fait ça, parce que ce qu'il faut savoir, quand on expliquait tout à l'heure, on racontait brièvement les 14 mois de résistance héroïque des Kurdes à Kobané, les Kurdes n'ont pas combattu que pour eux. N'ont pas combattu que pour eux. Je veux dire, on a des exemples, malheureusement, par dizaines en Europe, où des attentats ou des attaques à je ne sais quoi qui sont revendiquées par un espèce d'organisme se revendiquant État islamique ou je ne sais quoi. C'est contre ces gens-là qu'on a combattu. Si c'était un pays X ou Y qui venait revendiquer les attentats qui avaient été perpétrés en France ou ailleurs, vous pensez vraiment pas que la France aurait déclaré la guerre à ce pays en question? Si. Bah pourquoi est-ce que la France ne s'est-elle pas engagée en Syrie pour aller combattre l'État islamique?
Tout à fait. Et ça va peut-être se reposer d'ailleurs le problème.
Mais bien sûr.
Puisque vu ce qui se passe là-bas, il y a des grandes chances que l'État islamique se restructure.
Il y a des grandes chances, oui.
Ouais.
Il y a des grandes chances. Après, moi, je prends cette affirmation avec ce truc-là, avec un peu de, comment dirais-je, avec un peu de retenue, avec des pincettes, dans le sens où l'État islamique aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un peu l'atout de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que les Kurdes, eux, l'utilisent, les FDS l'utilisent. Regardez, vous nous attaquez, mais on a plus de 100 000 Daéchiens entre nos mains. On ne sait plus comment les tenir. Il arrive un moment où on va devoir les lâcher et venir vous combattre. Et si on les lâche pour venir vous combattre, ben, ils ont de fortes chances de s'évader. De l'autre côté, c'est l'atout de la Turquie, en disant, de toute façon, les Kurdes, ça fait des mois qu'ils pleurent en disant qu'ils n'arrivent plus à faire avec les 100 000 Daéchiens qu'ils ont en leur possession. Nous, on ira monter la garde dans les prisons en question. Et c'est un peu l'atout de tout le monde, vous voyez, tout le monde utilise cet État islamique comme étant un prétexte ou quelque chose comme ça.
Ouais. La propagande de l'État turc, c'est aussi de dire qu'ils vont utiliser, ouais, ils voudraient utiliser cette zone pour réimplanter, faire après le nettoyage ethnique que tu évoquais tout à l'heure, réimplanter les réfugiés syriens dans cette zone. C'est le chantage qui est mené auprès de l'Europe, notamment.
Oui, bien sûr.
Et parce que auparavant, il y avait un autre chantage et il y avait une espèce de demande financière colossale. Puis je crois qu'ils ont demandé quelque chose comme 6 ou 7 milliards,
ouais,
pour pouvoir accueillir sur le sol turc les nombreux réfugiés.
Oui, 4 millions. Au
moins. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a ce chantage-là qui est assez incroyable.
Il y a un chantage qui va aussi directement de dire que les 4 millions de Syriens qui sont en Turquie, on peut les lâcher et faire en sorte qu'ils viennent en Europe. Il y a aussi ça.
Voilà, ça joue beaucoup là-dessus, en effet. Mais tu sais, aujourd'hui, tu as des visions génocidaires. Parce que tu as un peuple qui s'appelle le peuple kurde, qui est de l'autre côté de la frontière et qui contrôle cette frontière. Et on parle, je crois de 500 kilomètres de long. Sur 500 kilomètres, t'as des Kurdes qui contrôlent ta frontière. Toi, de toute façon, historiquement et idéologiquement, tu as une haine pas possible des Kurdes. Tu peux pas les voir en pâture. C'est les Kurdes, c'est l'ennemi numéro un. Bah qu'est-ce que, et t'as 3,5 millions ou près de 4 millions de réfugiés syriens chez toi, à qui, soit dit en passant, t'as donné la nationalité pour pouvoir être élu au premier tour lors de certaines présidentielles, machin. Mais bon, passons les détails. Hein. Et ces gens-là, en fait, tu te dis comme étant quelqu'un de, d'humaniste, parce que tu veux aller aider ces réfugiés à réintégrer leur pays. Alors, ce que tu vas faire pour les aider à réintégrer leur pays, bah, d'abord, tu vas aller envahir la zone du Rojava. Ensuite, tu vas exterminer tous les Kurdes, du moins ceux qui te résisteront. Tu vas tous les exterminer un par un. Et ensuite, tu vas y implanter tes réfugiés, qui sont pas originaires de là-bas, généralement.
Ouais.
On appelle ça quoi ? On appelle ça comment ? Un nettoyage ethnique ? Un génocide ? Ouais. Quand on change la démographie d'un lieu. C'est un génocide, non ? Quand on extermine un peuple pour en mettre un autre.
Oui, dans le sens où c'est tout à fait programmé.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et malheureusement, là où je dis que ça n'est pas totalement la faute de Trump, c'est que la France, elle savait tout ça. Je parle de la France parce que c'est ce qu'on peut mieux expliquer. Aujourd'hui, voilà, la France savait tout ça. La France était consciente des risques encourus par les Kurdes du Rojava. La France savait que si elle n'aidait pas les Kurdes, bah, qu'ils allaient être soumis à une extermination comme celle-ci. La France savait très bien que la Turquie était un membre de l'OTAN et qu'elle allait pilonner leur premier allié dans leur dite coalition contre Daesh.
Ouais.
La France savait tout ça. La France est membre de l'OTAN au même titre que la Turquie. La France n'avait-elle pas son mot à dire ? Alors, plutôt que de faire des déclarations, ben non, elle ne peut plus dire de mots, forcément. Parce que quand on entend certains hauts représentants français qui disent, ben, écoutez, pour pouvoir entrer ou sortir du Rojava, il faut une aide logistique des États-Unis. Ben, tu m'étonnes que personne ne te prenne au sérieux dans la région. On parle de la France, qui est aujourd'hui peut-être quatrième puissance mondiale.
Oui, enfin...
Dans les dix premiers.
Les premiers.
Voilà, mais comment tu peux prétendre être aussi fort en évoquant des choses comme celle-ci ? Comment peux-tu être pris au sérieux dans la région ?
Ouais, je voudrais te poser une question maintenant. Généralement, quand il y a une guerre, il y a effectivement, comme on le souligne là, des histoires de génocide, d'extermination d'un peuple, mais il y a aussi des intérêts économiques qui sont sous-jacents et qui sont cachés, justement, puisque on parlait tout à l'heure de croissant fertile. C'est vrai que cette région du monde qu'on appelle croissant fertile, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'eau, hein, énormément d'eau, et il y en aura besoin, il y en a de plus en plus besoin.
Bien sûr.
Il y a du pétrole, il y a du gaz, donc c'est pas du tout une mince affaire pour la Turquie d'essayer de récupérer cette région. Parce que n'oublions pas que ce fut un empire, l'Empire ottoman, qui a perdu toute sa flambeur il y a quelques siècles déjà, et que dans l'esprit des Turcs, malheureusement au niveau politique, il y a souvent cette histoire qui est toujours sous-jacente et qui entraîne un nationalisme exacerbé, incroyable, au niveau des Turcs, que l'on revoit d'ailleurs pour un match de football ce soir.
Oui.
Hein, c'est quand même incroyable.
Oui, non mais ouais, aujourd'hui... Aujourd'hui, au-delà des richesses que peut cacher, je pense, les sols syriens, je pense que le nord de la Syrie est le Rojava est une richesse à lui-même, dans le sens où vous avez autant au-delà de la richesse matérielle, pétrole, eau, tout ça, qui bien évidemment, voilà.
Le projet social, tu parles.
Le projet social, la richesse du projet social. Les peuples qui sont unis, sans distinction de culture, sans distinction de sexe, sans distinction de quoi que ce soit, et qui sont en train de s'autogérer tous en même temps, main dans la main. On a encore des tribus arabes qui viennent rallier les FDS avec 50 000 hommes. Des tribus arabes qu'on était soi-disant, nous, Kurdes, en train d'exterminer, parce que enfin, c'était un des prétextes aussi de la Turquie pour pouvoir envoyer le Rojava. Mais voilà, je veux dire, on parle d'un projet tellement beau, tellement qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais la richesse du sol,
oui,
c'est annexe.
C'est annexe, oui. On va peut-être faire, mais malheureusement, notre technicien est parti. Ah, il revient. Faire une deuxième pause musicale.
شهروانو گز یادای که به قربانو تو نهلی طولامه به دست خوین به جانو شهروانو 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 گز یادای که به قربانو تو نهلی طولامه به دست خوین به جانو شهروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یار باراده دفنگل سر میلانو شهروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یاری باراده دل فنگل سر ملانو شروانو 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 گرکت دین برخانو لولی به دستنگانو بلسو بس که حیرانو شروانو 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 گرکت دین برخانو لولی به دستنگانو بلسو بس که حیرانو شروانو 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 دوسته دزانو کس که سوران از منو یان چکادش من منو شروانو 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 یار یا دوسته دزانو کس که سوران از منو یان چکادش من منو شروانو 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 شروانو
Je crois que maintenant, en cette fin d'émission, on va aborder le problème de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire, effectivement, il y a déjà eu des manifestations en France. Il y en a une à Reims jeudi soir. Il y en a une autre samedi à Paris qui était importante. Hein. Il y a eu d'autres, dans d'autres villes. Hein. J'ai vu Tours, Marseille, Strasbourg. Donc, je pense qu'il faut lancer les appels, il faut y aller. On y va.
Oui, exactement. En cette période sombre de l'histoire du monde. Même pas de l'histoire des Kurdes, de l'histoire du monde. En cette période sombre, je pense que ce qu'il nous reste à faire, nous, Européens, vivant un peu dans la tranquillité, c'est d'élever la voix, de se renseigner, de lire, de participer aux réunions publiques, d'aller, de venir, de se renseigner au maximum. Voilà, nous à notre échelle sur Reims, jeudi dernier, on a entamé notre période de manifestation. S'en est suivi une très grande à Paris qui a regroupé plus de 20 000 personnes samedi dernier. Et ça sera tous les samedis dorénavant à Paris les manifestations à l'appel du CDKF, du Conseil démocratique kurde en France. Et voilà. Et nous sur Reims, à échelle locale, une nouvelle manifestation prévue mercredi 19h sur le parvis de la gare centrale de Reims. Je pense qu'il est important que tout le monde sache et remette en situation certaines choses. Aujourd'hui, certains arrivent encore à décrire ça comme étant une légitime défense de la part de l'État turc. Or non, vraiment pas. Je veux dire, on lit tous certains commentaires ou certains articles, non pas prônant, mais essayant de comprendre un peu les velléités génocidaires d'Erdogan. Aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que Erdogan ne veut qu'une chose, le sang kurde. C'est tout ce qui l'importe. Aujourd'hui, il faut que le sang kurde coule pour lui. Pour preuve, il utilise ses supplétifs djihadistes.
Oui, c'est incroyable ça.
C'est même pas son armée à lui
c'est
qui va.
Lui qui
voilà,
va.
Il a 100 000 hommes, anciennement Al-Qaïda, Daesh ou autre. Ouais. C'est 100 000 hommes barbus jusqu'aux genoux, qui parlent pas trois mots de turc et qui arrivent à exécuter des civils à bout portant de deux ou trois balles dans la tête. Je pense notamment à Avin Khalaf, qui était la porte-parole du parti du futur de la Syrie, qui a été extirpé de son véhicule, qui a été violé et qui a été tué de deux balles dans la tête. Et bien sûr, tout ça a été diffusé sur les réseaux sociaux par ces monstres.
Ouais.
Par ces monstres. Et on a malheureusement aujourd'hui, on a toute une partie du monde, à savoir c'est la partie qui part du Bosphore jusqu'à l'Irak, vous voyez, cette partie du monde qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, où 90% de la population approuve ces actes et ces faits-là. Et aujourd'hui, la seule chose que l'on ait, nous, entre nos mains, bah, voilà, c'est à notre échelle de manifester, de montrer notre mécontentement, d'essayer d'aller pousser les portes qui se doivent d'être poussées. Ça peut être les maires de vos communes, ça peut être les députés de vos circonscriptions, ça peut être, je sais pas, si vous avez le bras plus long que ça, ça peut être des membres du gouvernement, ou je sais pas, mais.
Il faut pas rêver, hein.
Il faut essayer. Il faut essayer. Aujourd'hui, on a le ministre des Affaires étrangères qui a refusé de se rendre au Stade de France ce soir pour le match France-Turquie, justement. Alors, il dit en soutien aux Kurdes.
Il a dit ça.
Oui. Et sur un tweet, là, juste avant d'arriver dans les locaux, en soutien aux Kurdes.
Bon.
Mais bon, aujourd'hui, la seule chose qui nous reste à faire, vraiment, c'est marcher main dans la main, élever notre voix. Le défunt Ceger Hun, qui est poète kurde, disait Kwem neb nyek em her nyek peyek. Si nous ne sommes pas un, nous partirons un par un.
Voilà. Bon, écoute, Antoine, merci. Ben, on vous remercie.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'École Lyrique à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la Locale à Saint-Girons, et bien évidemment à Reims, où cette émission est réalisée sur Radio Primitive. Les